C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzini. Auteur Joseph Losey, cinéaste 1909-1984, américain, communiste, hétérosexuel. Œuvre Monsieur Klein, film 1976, sur un scénario de Franco Solinas, romancier, scénariste, italien, 1927-1982. Personnage Robert Klein. Il y a des gens comme Arletty et il y a des gens comme Joseph Losey. Je n'aime pas la gouaille avec ce qu'elle a de comédie fausse, de sympathie jouée et de violence réelle, pas plus que l'inhumanité qui, une fois qu'elle a perdu, se déguise en plaisanterie. Et par exemple, la réplique probablement inventée mais à bon escient d'Arletty disant en 45 à propos des Allemands « fallait pas les laisser entrer ». La République, qu'elle et ses amis haïssaient, a été bonne fille et l'a laissée bien tranquille, lui permettant, comme elle a vécu très vieille, d'accueillir en pèlerinage tous les alevins kakis de la deuxième moitié du XXe siècle. Je rappelle qu'Arletty avait vécu pendant la guerre avec un officier de la Luftwaffe, membre du parti nazi et ancien secrétaire de la Légion Condor, et que de vivre avec un soldat d'une armée qui occupe votre pays porte le nom très simple de traîtrise. Joseph Losey a été accusé de traîtrise par les fanatiques maccartistes aux États-Unis et obligé de s'exiler. Tout ce qu'il avait fait était d'être communiste. Plus tard, en France, il a réalisé un film, un grand film, qui se passe pendant 2 jours, où nous savons ce qu'Arletty a fait grâce au journal de José de Chambrun. Le 16 juillet 1942, cette José de Chambrun note dans son journal « Dîner maison avec papa ». Et papa, c'est Laval, Pierre Laval, celui qui souhaitait la victoire de l'Allemagne. Le 17, elle prend un petit déjeuner à Matignon et déjeune chez La Pérouse, le restaurant de luxe, avec ses parents, puis le soir, Arletty et son amant allemand passent chez elle. L'occupation n'a pas été sans caviar pour tout le monde. Et ces 2 jours sont ceux de la rafle du Veldiv. C'est au cours de cette rafle où 13 000 Français juifs ont été livrés aux nazis par la police de leur pays, 7 000 ayant été amenés au Veldiv, que Robert Klein part pour la mort à la place d'un autre Klein. Ce film n'est pas, à mon sens, contrairement à ce qu'on pourrait penser en tout cas, un film sur l'identité, mais un film sur la curiosité. Et c'est avec une sorte d'exaltation que Robert Klein s'écrie avant de monter dans le train fatal « Je reviens, je reviens ». Qui est Robert Klein ? Pour en parler, je reçois Samuel Blumenfeld, critique de cinéma au journal Le Monde et auteur, entre autres, des Vies imaginaires de Michel Wajinski chez Grasset. Samuel Blumenfeld, si vous le voulez bien, pour la commodité de notre conversation, nous dirons Robert Klein pour le personnage que joue Delon et Klein pour celui qu'il recherche. Je crois que ça nous permettra d'être plus simple. À quoi ressemble donc physiquement Robert Klein?
En fait, il y a deux Klein. Il y a le Klein dont Costa-Gavras et Franco Solinas s'étaient inspirés pour écrire le film qui deviendra celui de Joseph Losey. Parce qu'à l'origine, ce film devait être réalisé par Costa-Gavras en collaboration avec ce scénariste italien génial qui était Franco Solinas, qui avait écrit peu de temps auparavant La bataille d'Alger, donc véritablement un très grand scénariste. Et l'idée avait germé, sans doute d'ailleurs dans l'esprit de Costa-Gavras plus qu'au de Solinas, en regardant Le chagrin et la pitié de Marcello Fulz, un film donc découvert que la France et le monde découvre avec stupeur au début des 1970. Et parmi cette stupéfaction, un personnage, parmi tant d'autres, dans cette France occupée, surtout dans cette région de Clermont-Ferrand occupée, et un commerçant tout à fait anonyme, tout à fait anodin, du nom de Marius Klein, qui avait fait passer une annonce dans un journal local, pour bien préciser que, contrairement à ce que son patronyme pouvait laisser imaginer, il n'était en aucun cas juif. Et donc, bien évidemment, fort de cette certitude, il voulait rassurer tous ses clients, passés, présents et futurs, et leur signifier qu'ils pouvaient continuer de faire leurs emplettes chez lui. Ce personnage avait à l'époque particulièrement frappé Marcello Fulz, parce qu'en fait il était le symbole de la veulerie, de la lâcheté, l'esprit en fait profond de la collaboration, parce qu'il s'exprime en fait de manière tout à fait ordinaire. ce Marius Klein, nous connaissons bien son visage. Enfin, je veux dire, il est parfaitement identifié. Combien même le verrait-on, le reverrait-on dans, attentivement dans le documentaire de Marcel Ophuls, nous l'oublierions tout aussitôt.
Il ressemble à quoi ?
Quelqu'un, un personnage gris, quelqu'un qui perd largement ses cheveux, qui a encore une trace de cheveux sur le dessus, mais un visage qui est presque impossible à décrire tellement il est ordinaire. Et en fait, un visage d'autant plus effrayant en fait qu'il est celui que pourrait avoir tout le monde.
Et donc Lozé choisit pour représenter ce personnage ordinaire, quelqu'un qui a un physique loin d'être ordinaire.
Pour incarner ce personnage, Lozé choisit le physique le plus flamboyant et le plus singulier du cinéma français de l'après-guerre. Le presque, je dirais, le seul physique qu'il soit impossible à oublier. Mais surtout, au-delà du physique, parce que souvent, dans le cas de Delon, on reste bloqué sur ce physique.
Oui, précisons bien, parce qu'on ne l'a toujours pas dit depuis le début, que c'est Alain Delon qui interprète M. Klein.
C'est Alain Delon qui interprète M. Klein. Et on reste toujours bloqué sur ce physique, en oubliant en fait que Delon, en fait, était le seul comédien français à posséder les propriétés pour incarner ce personnage. Car ne l'oublions pas, ce personnage est double, en fait. Il y a le Robert Klein, collectionneur d'art, profitant de cette patte trouble de l'occupation pour acheter à vil prix des biens juifs qui eux veulent tenter de quitter le pays tant bien que mal. Et il y a l'autre Klein après lequel Delon est lancé dans le film.
Parce qu'il faut dire qu'en sortant sur son paillasson, la porte s'ouvre et il trouve un exemplaire d'actualité juive et il est très surpris parce que c'est adressé à Alain Klein mais qui n'est pas lui.
Voilà. Et tout naïvement, de manière tout à fait en honnête citoyen qu'il est, il va d'abord se rendre au siège de la rédaction en chef d'Information Juive pour leur dire, écoutez, je suis destinataire d'un journal qui n'est pas le mien. Et ensuite, il va voir l'administration de Vichy pour leur dire, écoutez, encore une fois, je suis destinataire de ce journal. En aucun cas, je ne souhaite être confondu avec un citoyen français juif. Et à partir de là, s'enclenche une mécanique infernale.
Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qui me frappe, moi, en ayant revu le film, et que j'avais d'ailleurs oublié, c'est la coiffure de Delon. Et je voudrais signaler d'ailleurs que le coiffeur s'appelait Pierre Vade, parce que ça me paraît un génie, à moins que ce soit Lozé qui ait eu l'idée, ou Delon lui-même. C'est la coiffure de Delon, on lui a fait une mèche de petit garçon, une mèche coupée là, de premier communiant, avec une raie sur le côté. Et pour moi, ça accentue le fait, mais peut-être vous ne serez pas d'accord, que ce Robert Klein est curieux comme un enfant, et est un enfant. Il cherche à savoir les choses, non pas pour une question d'identité ou pour une question de danger, mais vraiment par curiosité. Et d'abord, c'est quelqu'un qui cherche à voir. Son métier est de voir. C'est un amateur d'art, il cherche à voir les choses, il veut toujours voir. Il va d'une porte à l'autre et chaque fois qu'il ouvre les portes, il finit vers le...
Je dirais, cette coiffure qui est effectivement tout à fait singulière dans le canon de l'œuvre de Delon, parce que d'ordinaire, les cheveux de Delon sont souvent amples. Ici, ils sont coupés ras, presque rasés. Je veux dire, c'est pas
très court,
véritablement très court. Je dirais que ça ajoute une dimension très mélancolique au personnage. C'est que nous n'avons pas ici affaire à un Delon qui cherche à séduire. Et donc, beaucoup, une grande partie du personnage réside dans sa coupe de cheveux.
Vous disiez qu'au début, il achète un tableau à un juif qui veut partir de France et il a une réplique d'un narcissisme inouï. Quand il le paye, il lui dit « c'est très désagréable pour moi ». Robert Klein dit ça. Et dans les notes sur le personnage qui ont été publiées par Positif, Lozé écrit à propos de Robert Klein que c'est un égoïste qui aime les femmes, l'argent et est très peu intellectuel.
Ça, c'était en même temps, ce sont des notes qui sont, on va dire, qui sont produites avant le tournage du film et qui sont, je dirais, contredites par l'interprétation de Delon. Parce que lorsque Delon s'empare de ce fameux portrait au début du film, qui va le hanter, enfin je veux dire qu'il l'achète à vil prix, mais en fait qui le hante parce qu'en fait ce portrait devient en fait une forme d'autoportrait. Mais n'oublions pas que l'acteur qui s'empare de ce portrait est un immense collectionneur d'art. Le goût de Delon en matière d'art est imparable. Et donc il suffit que ce soit Delon qui s'empare de cela pour que ce personnage devienne subitement beaucoup plus intelligent que ce qu'avait envisagé Lozé.
Alors, il a quelque chose que je trouve aussi d'une certaine façon enfantin, c'est que peu à peu, il fait des provocations. Par exemple, dans une scène du film, il fait jouer l'Internationale au piano par une femme en présence de policiers français. Et pour moi, c'est une espèce de provocation un peu enfantine aussi.
Alors, il y a ça, ou du moins, ce qui est enfantin, en fait, c'est peut-être un personnage qui ne prend pas la mesure de l'histoire en marche. Mais en fait, qui prend la mesure de l'histoire en marche?
Enfin, des résistants, il y en a eu. Et d'ailleurs, probablement le clan qu'il recherche est probablement résistant, on y reviendra.
Mais pas celui-là, pas ce personnage, en fait, qui était à la remorque de l'histoire, et en fait, ne la comprend véritablement qu'à la toute fin, une fois, en fait, qu'il est mise en bière.
D'ailleurs, quand on lui prend ses papiers au moment de cette scène de l'Internationale, il ne conteste pas, il dit même « je ne conteste pas la loi ». Donc à aucun moment, il y a une indignation morale de sa part.
Non, ce n'est pas un personnage qui est dans l'éthique et dans la morale. C'est un personnage qui prend progressivement la mesure des méandres de l'histoire. Et pas n'importe quelle histoire, en fait. Un moment, en fait, unique en fait dans l'histoire de la République française, parce que c'est la tâche la plus noire de l'histoire de la République française.
Alors, le clan qu'il recherche est très probablement résistant. Ça n'est pas dit, car rien n'est dit dans ce film, et c'est à mon avis une de ses réussites, que tout est suggéré. Il n'est pas dit que le clan à qui l'information juive du départ était adressée est résistant. Ça n'est dit nulle part.
Non, ça n'est dit nulle part, mais est-ce que ce clan existe seulement?
Enfin, il y a des indices, puisque quand Suzanne Flon, qui joue la concierge de l'appartement rue des Abbesses, voit Delon, elle dit qu'elle le reconnaît, quoi qu'elle n'ait pas vu son visage, mais elle reconnaît sa silhouette, donc elle a vu un clin.
Oui, elle a vu un clin, mais est-ce que ce clin qu'elle a vu est le clin, en fait, dont on parle? Donc, en fait, nous sommes à la poursuite du nombre, mais ce clin, en fait, est une forme vide à bien des égards. Qu'est-ce qui vous prouve, en fait, que ce clin n'est pas le double de Delon? Qu'est-ce qui vous prouve, par exemple, dans cette scène absolument extraordinaire dans le film, où Delon va voir son père pour lui expliquer qu'une enquête a été diligentée à son sujet et qu'il a besoin de vérifier l'arbre généalogique de la famille. Et là, son père lui dit « Mais écoute, nous sommes catholiques depuis plusieurs siècles. » Et tout d'un coup, lui dit « Mais il y a quand même une branche clin aux Pays-Bas et là, je ne sais pas. » Et ce « je ne sais pas », en fait, ouvre un abîme considérable, qui est le délire des origines. Donc le délire des origines, c'est-à-dire l'impossibilité de tracer son origine exactement. Et dans ce mystère-là, la possibilité qu'il y ait dans cette famille Klein une branche juive.
Alors, vous l'avez évoqué dans votre première réponse, Samuel Blumenfeld, on ne s'en rend pas bien compte aujourd'hui, mais 76, qui est donc la date de sortie du film, en fait un film très nouveau, parce qu'on ne leur parlait pas, je parle en fiction en tout cas, puisque vous avez parlé du Chagrin et la Pitié, mais on ne leur parlait pas du Veldiv, et il a fallu, je crois, une interview scandaleuse de l'Express en 78, où l'ancien commissaire général aux questions juives a fait une interview tellement atroce qu'on s'est mis à reparler de ça. Il y avait eu un film avant de Michel Mitrani, Les Guichets du Louvre, mais qui n'avait pas été un succès en 74, donc est-ce qu'on ne peut pas dire que Monsieur Klein, historiquement et dans la conscience politique des Français, a beaucoup compté aussi pour revenir sur ce moment?
Alors absolument, c'est un film essentiel qui arrive quand même au bout d'une séquence où le cinéma français, en fait, redécouvre Vichy, ou du moins le met en scène. Une séquence d'ailleurs assez flamboyante, parce qu'elle se traduit par des films de très grande qualité. Vous avez évoqué Les Guichets du Louvre, mais juste avant, il y a eu Section spéciale de Costa Gavras, il y a eu surtout eu La Combe Lucien de Louis Malle et Patrick Modiano, et auparavant, bien évidemment, Le Chagrin et les Pitiés de Marcel Ophuls. Mais dans ce édifice, véritablement, Monsieur Klein domine, parce que c'est artistiquement le plus grand film, on va dire de fiction, s'entend, parce que bon, le Chagrin et les Pitiés est un documentaire, donc c'est véritablement le plus grand film, et c'est surtout celui qui aborde véritablement frontalement le grand tabou de la période, le fait que la République française ait pris la responsabilité d'organiser de A à Z la rafle, puis la déportation d'une partie de ses citoyens juifs, et surtout le fait que dans le Monsieur Klein, vous ne voyez pas un seul nazi.
C'est ça.
Les nazis ne sont pas là. Le film ne dit pas qu'ils sont absents, mais en l'occurrence, le mal est symbolisé par l'administration et la police française. celle de la République.
Nous allons entendre un extrait des Actualités mondiales diffusé le 23 mai 1941. On y présente l'inauguration de l'Institut d'études des questions juives qui se trouvait rue La Boétie à Paris. Et ses responsables, dont je n'ai pas envie de répéter le nom, mettent en cause l'influence du judaïsme dans l'industrie du cinéma.
À Paris a été inauguré l'Institut d'études des questions juives. Monsieur Gérard prend la parole.
L'Institut d'études des questions juives ne dépend et ne dépendra jamais d'aucun parti politique. Ils sont avant tout un office de centralisation, de coordination et d'information traitant la question juive sur le plan scientifique et étudiant le problème juif sur le plan européen. Le cinéma a été pour eux une affaire splendide qui leur a permis de voler des milliards. Tanenza dit Nathan, qui représentait aux yeux du monde, oh pauvre France, le cinéma français, et dont la marque était le coq gaulois, a coûté à l'épargne publique près de 700 millions. Quel de la Gaumont, franco-film Maubert, 500 millions.
L'exposé de M. Serpeil de Gobineau.
Il y a un autre danger, bien plus grand. Parce que bien plus difficile à repérer, c'est le danger de l'influence morale du judaïsme.
Samuel Blumenfeld, je voudrais que maintenant nous parlions de la forme du film, Monsieur Klein, qui me paraît admirable. Et pour commencer, ces couleurs bleuâtres qui ont presque l'air d'un noir et blanc, et ces rues de Paris presque toujours humides de pluie, comme pour nous dire que même quand il faisait beau, il faisait mauvais sous l'occupation.
Et surtout qu'en plus, comme l'on sait, la rafle du Veldiv s'est déroulée en juillet. Même si ce jour de juillet, il pleuvait. Et puis qui s'est déroulée à l'aube, puisqu'on a raflé tous ces juifs au petit matin, pour que les Parisiens ne se rendent pas compte de la forfaiture qui était accomplie. Lauzet a choisi en fait de transformer ce triste été en hiver rigoureux. Vous précisez dans votre présentation que Lauzet était communiste. Lauzet était particulièrement marqué par le Chili en 1973. Il était hanté par ces fameux stades. Et pour Lauzet, en fait, lorsqu'il filme un autre stade, qui est le Vélodrome, le fameux Vélodrome d'hiver, où sont parqués tous les Juifs qui ont été raflés, Vélodrome d'ailleurs qui est reconstitué puisqu'il n'existait plus à l'époque.
Il faut d'ailleurs dire, je crois qu'on ne l'a pas encore dit, qu'il était dans le 15e arrondissement, n'est-ce pas?
Oui, ce Vélodrome était dans le 15e arrondissement, il était détruit, il n'en restait plus rien.
Et alors je voudrais que, comme j'ai cité, mentionné tout à l'heure le coiffeur, je voudrais qu'on mentionne, c'est peut-être plus important, le caméraman qui est quelqu'un de très important qui était Pierre-William Glenn.
Oui, il y a le caméraman Pierre-William Glenn, absolument, qui est un des grands chefs opérateurs du cinéma français. Il y a aussi, pour le film, le chef opérateur de Lauzet, qui est Jerry Fisher, qui est un très très grand chef opérateur, et que l'on peut difficilement séparer du reste de l'œuvre de Lauzet. Lauzet était véritablement entouré d'une équipe quand même absolument impeccable. Hein. Je veux dire, bon, les décors d'Alexandre Tronner quand même sont absolument exceptionnels. Bon, nous parlons d'une époque où le cinéma français, en fait, était un immense cinéma. Bon, il s'agit du premier film français de Joseph Lauzet, donc émetteur en scène américain, qui donc fait l'essentiel de sa carrière en Grande-Bretagne, et donc là découvre le cinéma français. Et surtout, enfin, il faut pas oublier aussi l'apport exceptionnel de Delon sur le film. Tout à l'heure, bon, nous évoquions la nature double de son personnage. Il y a Robert Klein, il y a le Klein après lequel il est ce Klein qu'il essaye désespérément de saisir. Faut pas oublier quand je disais tout à l'heure que Delon était d'une certaine façon né pour incarner ce personnage, il était parce qu'en fait Delon a toujours été double dans sa carrière, très souvent été double dans sa carrière. Je pense au Delon de Plein Soleil par exemple, qui prend l'identité de Maurice René. Je pense au Delon de La Tulipe Noire, qui a un frère jumeau. Et donc, Monsieur Klein venait couronner en fait toute une carrière.
Je ne veux pas diminuer l'interprétation de Delon qui est admirable, mais lui-même dit dans une interview, d'ailleurs quand on lit les interviews, il y a des choses un peu contradictoires, parce que Delon a l'air de se vanter un peu, mais ça, c'est sa spécialité, il est parfois contredit par des interviews de Lauzet, ce qui n'est pas très grave, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de très frappant, c'est que lui, Delon, dit dans un entretien de 2009 que Lauzet le dirigeait avec beaucoup de précision et jusqu'au geste. Et ça me frappe d'ailleurs, car dans ce film, Delon n'a pas des gestes de Delon. Il n'y a pas les gestes d'insolence et de forfanterie qu'il peut avoir très souvent quand il n'est pas très bien dirigé. Il a des gestes, non, Monsieur Klein, qui me semblent très retenus. Et tout est retenu dans le film.
De toute façon, l'un des talents de Delon, c'est de savoir se plier au grand metteur en scène quand il se trouve face justement à un de ces grands metteurs en scène.
C'est aussi, Monsieur Klein, un film sur Paris. On le voit à Paris, évidemment, mais on l'entend aussi. On entend des adresses, 136 rue du Bac, qui est celle de Robert Klein. Une adresse d'ailleurs qui existe, qui est en face du Bon Marché, et qui indique son statut social, parce que c'est un quartier d'antiquaire. L'autre Klein a vécu rue de l'Université, dans un quartier élégant, puis loue un appartement rue des Abbesses. C'est très... très frappant dans le film.
La topographie, effectivement, très importante dans le film. Elle nous renvoie, en fait, à une des scènes les plus fascinantes du film. C'est celle où on voit la police française, qui est une scène que, d'ailleurs, qu'on pourrait enlever du film sans handicaper le récit, et qui, pourtant, est essentielle. On voit la police française devant une carte de Paris, avec différents points, et en train de se dire, voilà, comment pouvons-nous réaliser cette rafle de la manière la plus efficace possible, dans le temps le plus réduit.
Alors, vous avez cité deux fois, ou mentionné deux fois, et je voudrais qu'on y revienne un peu, la direction artistique de Tronner, Alexandre Tronner. Et la chose assez frappante, c'est que Tronner dirigeait donc dans ce film, et que lui, pendant la guerre, lui qui était juif, n'avait pu continuer à travailler que sous un autre nom.
Ce qui est déjà énorme, d'ailleurs, hein, quand même. Hein. C'était bien le minimum, parce que quand même, il a eu le privilège non seulement de pouvoir travailler, mais de rester vivant et en plus de pouvoir travailler.
Rappelez-nous un peu qui était Tronner et ce qu'il a fait d'admirable dans le cinéma français.
Tronner devient en fait surtout l'un des grands décorateurs en fait du cinéma américain aussi. Ce qui me frappe en fait, c'est que souvent les grands décorateurs, avant-guerre mais surtout après-guerre, sont des Juifs d'Europe centrale. Donc des gens qui par essence ont été spoliés et contraints à des exils successifs. Et ce sont les gens qui ont été contraints à des exils successifs qui savent presque le mieux capter l'esprit d'un lieu. Et en fait, bon, ce qu'on retrouve dans Monsieur Klein à bien des égards, c'est l'esprit de cette ville, mais l'esprit de cette ville tel que l'envisage Joseph Losey. C'est-à-dire qu'en fait, une ville qui est assez kafkaïenne, une ville qui devient un piège.
Il fait tout dans son film pour suggérer la violence. On ne voit, sauf erreur, jamais de coups, on ne voit pas d'assassinat, on ne voit pas de violence physique. Et précisément, à mon sens, c'est cette suggestion permanente qui crée un très très fort sentiment d'oppression dans le film.
Absolument, parce que la mort, en fait, est omniprésente et inéluctable. Peut-être la scène que je trouve la plus violente dans le film, c'est celle... vers la fin du film, lorsque Robert Klein est raflé, se retrouve dans un de ces autobus qui vont mener toute cette population au vélodrome d'hiver. Et à un moment, Klein aperçoit une petite fille dans la rue et veut lui transmettre un message. Et donc, lui envoie cela par la vitre. Et cette petite fille, en fait, tourne la tête, quoi. Et à la fois, on comprend qu'elle ne comprend pas cette tragédie parce que c'est une petite fille, mais aussi que fondamentalement, en fait, ce qui se déroule l'indiffère. Comme en fait, elle indiffère beaucoup de gens ce jour-là.
Alors, pour moi, la scène la plus violente, et qui signale d'ailleurs la violence qui courra tout le long du film, est la première, qui est la première scène où on voit une femme dans un cabinet médical se faire examiner nue par un médecin qui lui soulève les lèvres comme on devait faire aux esclaves noirs en Amérique pour vérifier si elle est juive ou pas.
Absolument. C'est parce qu'en fait, cette scène, qui pareil, hein, on l'enlève, on ne la remarque pas. Mais en même temps, à partir du moment où elle est là, on comprend le véritable sujet du film, qui est en fait l'identité et la différence. Et bien évidemment, ce que le film, la base de départ du film, c'est bien évidemment, il y a des gens différents. Et le point d'arrivée du film, c'est qu'en fait, cette différence, en fait, est impossible. Elle n'existe pas.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, Samuel Blumenfeld, une des caractéristiques de Monsieur Klein, c'est que c'est un film français. Mais ça n'est pas un film français moyen, ça n'est pas un film américain moyen qui aurait appuyé et expliqué, et ça n'est pas un film français moyen qui aurait ajouté une histoire de sexe. C'est d'ailleurs, à mon sens, aussi bon soit-il, peut-être la limite du dernier métro de François Truffaut. Dans les films américains moyens, un maître d'école dessine la croix gammée au tableau, et dans les films français moyens, elle est sous la culotte.
Écoutez, moi je dirais surtout quand on parle de nationalité, c'est frappant de voir que le grand film français sur l'occupation a été réalisé par un metteur en scène américain, communiste, écrit par un scénariste italien lié au Parti communiste italien, et joué et produit par un acteur par une star française, Alain Delon, connu pour être à droite. a priori, c'était un alliage impossible. D'abord parce que tous ces gens-là ne parlent pas forcément la même langue, ces gens-là n'ont pas la même culture, ils ne viennent pas de la même famille cinématographique. Et pourtant, le temps de ce film, ce sont des noces rêvées.
Il y avait quand même que Delon avait joué avec Lozay avant dans l'assassinat de Trotsky.
Alors, Delon avait joué auparavant avec Lozay dans l'assassinat de Trotsky. Donc d'ailleurs, c'est Delon, de toute façon, qui était allé chercher Lozay pour le film. Donc Delon avait confiance en Lozay.
Et il a coproduit le film.
Il a coproduit le film. Le film ne se faisait pas sans lui. Donc il avait confiance en Lozay. Mais quand on compare quand même l'assassinat de Trotsky, qui est un film quand même relativement raté, voire même complètement raté. Et Monsieur Klein, on comprend bien que nous ne jouons pas dans la même catégorie.
Peut-être que la différence entre l'assassinat de Trotsky et Monsieur Klein, c'est que dans Monsieur Klein, Lozay a réussi un film fin sur un sujet épais.
Mais parce qu'en fait, le sujet épais est abordé en fait par une idée absolument géniale, par une idée anglaise qui est absolument formidable. Et en plus, il ne s'embarrasse pas en fait. Ce n'est pas, il n'y a pas de volonté de s'arrimer en fait à un événement à une histoire vraie.
Et ce qui me paraît vraiment le comble de l'œuvre d'art et qui fait à mon sens de ce film un chef-d'œuvre, c'est que à chaque scène, Lozay approfondit le mystère. Il ne l'éclaircit pas, il l'approfondit.
Absolument. Plus on s'enfonce dans le film, moins on comprend. Il y a aussi une autre dimension qui est très importante et qui est posée dès la seconde scène du film. En fait, celle où Robert Klein en fait rencontre ce juif et donc achète à vil prix son portrait de maître. C'est la première fois dans l'histoire du cinéma français, peut-être même du cinéma tout court, qu'est abordée la question des spoliations. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi est-ce que cette question est pour la première fois abordée et pourquoi l'est-elle abordée de manière aussi brillante et frontale ? Je pense parce que c'était lié à la culture marxiste de Lozay et de Solinas, avec l'idée que dans toute forfaiture, il y avait une dimension pécuniaire. Si l'on tuait des gens, c'était aussi pour s'en prendre à leur bien.
Samuel Blumenfeld, que vous a appris le personnage de Robert Klein ?
Il m'a appris à mieux comprendre, à mieux évaluer ce qui était arrivé à mes parents durant la période de l'occupation.
Qu'est-ce qui est arrivé à vos parents ?
Mes parents ont eu la vie de juifs sous l'occupation, c'est-à-dire qu'en fait, qu'était la mort aux trousses. Ils ont échappé tant bien que mal à la déportation. Et en fait, ce que M. Klein permettait de comprendre, c'était que mes parents n'avaient pas seulement été victimes d'un occupant, ils avaient aussi également été victimes de la loi scélérate d'un pays. Ce qui expliquait leur silence et leur difficulté à raconter ce qui leur était arrivé. Et là, tout d'un coup, en fait, M. Klein mettait un nom aux choses.
C'était Personnage en personne, le 56e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Deltchef, créé par Eric Ambler dans L'affaire Deltchef.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de recherche et de documentation de Daphné Amgral, prise de son Claude Niort.
Ma vie.
Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.
C'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis. De l'autre côté de la rue, mon paradis. Ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers de passants, sans rêve, qui ne savent pas être heureux, comme si j'étais assis là-haut.